Et bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech, c'est le mug du vendredi, le mug spécial gravier, un peu comme les autres mugs, diront les mauvaises langues. On va parler de plein de choses aujourd'hui, on va un peu focusser sur le Rabbit Air One. On n'a pas vraiment des tests qui sont sortis, mais il y a des choses intéressantes. On regardera la vidéo d'Unbox Therapy ensemble. On va bien sûr parler d'autres sujets tech puisque ça va être le récap de la semaine. Je répondrai à vos questions tech si vous arrivez à les glisser dans mon flot de paroles ininterrompu. Et nous sommes... Quel jour on est ? On est le vendredi 26 avril 2024 et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous, et comment vous allez bien en ce vendredi? Est-ce que vous avez la forme? Est-ce que vous êtes prêts pour le week-end? À fond les ballons. S'il y en a qui bossent, rassurez-vous, moi aussi. J'ai tellement de retard dans le boulot, et j'ai tellement de choses à faire. Moi, ça va. Beaucoup, pas mal de pression en ce moment. Pas mal de pression, mais ça va, écoute. Beaucoup de choses à préparer. Vous le savez, on vous l'a mis en annonce, effectivement, qu'il n'y aura pas de mug entre le 10 mai et le 24 juin 2024, puisqu'on va travailler au Japon pendant 3 semaines. Et après, je me fais 2 semaines de vacances au Japon, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Il n'y a pas que le boulot dans la vie, mais tout ça exige pas mal de préparation, pas mal d'anticipation. On n'aura peut-être pas exactement le même rythme de vidéo que d'habitude, et les lives, c'était juste impossible à caser, sachant qu'en plus, en déplacement, il y a trop d'inconnus pour s'engager, en tout cas, sur des lives. Pourquoi pas mal de pression? Ben parce que c'est du boulot et qu'il faut anticiper pas mal de choses. Après, vous pourrez probablement suivre nos périples. J'aime pas promettre des choses parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire dans la vie que les gens qui promettent et qui ne font pas parce qu'ils ne peuvent pas. J'aime pas le overpromising, mais il y aura probablement des choses à voir sur notre Instagram et notre TikTok. Ça, c'est sûr. Je suis en cam 2. Je sais. Ok, je reviens en cam 1. Jérôme décompresse en live. Tout à fait, je vous fais un transfert, là, en fait, de stress. C'est ça, les pays étrangers, il y a trop d'inconnus. Les Japonais, ils parlent très mal le français, hein, quand même. L'anglais, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ces pays qui ne parlent pas le français? Tu aimes pas les cliffhangers, hanger comme s'accrocher, cliff s'accrocher à la falaise, pour l'orthographe, Renardo Glacial. C'est le principe d'un cliffhanger, c'est qu'on ne sait pas si la personne va tomber ou pas. On voit ses doigts au bord de la falaise qui grattent les graviers, je vais tomber ou pas. Nous, on sait, parce qu'on est spécialiste du gravier, que de toute façon, tu tomberas. Toi, tu vas à Milan, t'en foutre plein la panse. Ah, c'est cool, Milan. Moi, j'ai beaucoup aimé Milan. Ouais. Beaucoup, beaucoup aimé. Ça dépend si c'est le perso principal. Ouais. Avec les grèves en France, faut rien promettre, faut rien prévoir. Et tu es inquiet à propos de la grève des aiguilleurs du ciel. C'est pas ma principale inquiétude parce que ça, c'est une chance que j'ai. Je suis un bon improvisateur quand les choses... Je suis pas... Alors, vous allez voir, dimanche, je sors une vidéo sur l'organisation de ce voyage. Et vous allez voir, c'est assez technique, mais justement, je vous ai montré comment on organise un voyage avec les outils qu'on a, et notamment l'iPad. Tout un truc sur l'organisation du voyage. Et si vous voyez la vidéo, j'ai essayé de faire une vidéo qui s'adresse autant aux gens qui n'aiment pas trop prévoir, mais il y a quand même un minimum dans un voyage, mais qui s'adresse aussi aux gens qui aiment bien prévoir les choses. Voilà. Il y en a vraiment pour tous les types d'organisations, avec des outils qui sont justement assez souples. Et elle devrait arriver dimanche, cette vidéo. Tu trouves Milan nul comparé à Venise ou Florence? C'est pas comparable pour moi. Là, tu viens de parler de trois villes et trois ambiances complètement différentes pour moi. Je ne m'amuserais pas à comparer. Parce que Venise, il y a des gros défauts aussi. Hein. C'est incroyable, mais il y a des gros défauts. En fait, Florence, je ne connais pas encore. Coucou tout le monde, coucou Guillaume. Salut même. Merci beaucoup, Philrine510 pour ton 28e mois d'abonnement. Merci, Langelot, pour ton 32e mois d'abonnement. Merci, ACIP Digital, pour ton 27e mois d'abonnement. Merci à vous, les contributeurs du jour. Merci à vous, merci à vous. Ouais, Florence, j'ai hâte de le faire. C'est sur ma to-do list, Italie. J'ai enfin fait Rome. Alors, fait Rome. J'ai fait l'apéritif de Rome. Ça m'a donné envie d'y retourner, on va dire ça. Mais j'ai envie de retourner à Milan. Venise, c'est incroyable. Mais ça m'a... Alors d'abord, j'ai extrêmement mal mangé à Venise. Et je dirais même, c'est pas l'endroit où j'ai le plus mal mangé en Italie. Ça fait partie, avec l'Allemagne, des pays, des endroits où j'ai le moins bien mangé au monde. Alors, je m'y suis peut-être mal pris, mais franchement, alors, il y a un resto incroyable que j'ai fait à Venise. Mais alors, le reste, dégueulasse. Non, on va au Japon, pas en Italie. C'est juste là, on est en train de discuter à bâton rompu. Non, j'ai pas de news fraîche de Guillaume. Il faut que j'en reprenne avant de partir au Japon. J'ai pas de news fraîche. J'ai l'impression qu'il est même pas très actif sur les réseaux sociaux, Guillaume. Il est peut-être en période de décontamination après avoir plongé dans le bain. Alors, le musée Ghibli, moi, je vais pas le faire parce que je travaille ce jour-là. Marion va le faire avec son frère. Moi, Ghibli, j'aime beaucoup, mais ce n'est pas mon enfance. Donc, dans les choix à faire sur ce que j'ai envie de voir au Japon, j'aurais bien aimé le faire, mais ce n'est pas dans mes prios. Je n'ai pas une énorme culture animée, manga, Ghibli. C'est pas mon creuset culturel. J'aime bien. Mais j'ai pas toutes les refs. Voilà. Mais après, oui, Marion et son frère, eux, c'est vraiment leur enfance, les films Ghibli, enfin, les animés Ghibli. Donc, eux, ils ont prévu d'y aller. Tu n'as qu'à lui passer un HelloFresh. Tout à fait. Mais même Goldorak, je suis arrivé un peu tard, moi, en France, hein, pour Goldorak. Et aux États-Unis, quand j'y passais mon enfance, il n'y avait pas du tout de dessin animé japonais. Hein. Toute cette culture, les Français ont été, entre guillemets, en avance. C'est surtout que les dessins animés japonais ne valaient pas cher par rapport aux dessins animés américains. C'est pour ça qu'il y a eu une déferlante années 70-80 dans les émissions pour enfants en France. Des séries et des dessins animés japonais. Oui, Sankukai, c'est la bataille japonais, effectivement. Ça, j'ai connu quand même. Ça, j'ai connu la hype Sankukai. T'es à la rue, mais il fait quoi, Guillaume, maintenant ? Guillaume, il déménage au Canada, aux dernières nouvelles. Au niveau du boulot, j'en sais pas plus que vous. Oui, il y avait Candy, il y a Goldorak, après j'ai connu Captain Flamme, Albator, tout le tralala années 80, des premiers animés traduits en français. Il va faire bûcheron. Oh, pourquoi pas. Dragon Ball, c'est arrivé après. Dragon Ball, c'est la deuxième vague quand même. Moi, Dragon Ball, j'étais trop vieux pour regarder ça, en fait. Alors, ça veut rien dire. Il y avait des mecs de mon âge qui regardaient Dragon Ball. Mais comme je vous le dis, moi, j'étais plutôt comics et Donjons et Dragons, Heroic Fantasy. L'univers animé, ça me parlait beaucoup moins. Après, j'ai beaucoup aimé Albator, hein, quand même, et Sankukai. Goldorak, ouais. Déjà, à l'époque, je trouvais ça... Alors, vous allez me dire, tu trouves ça kitschouille et t'aimais Sankukai. Il pourrait y avoir un long débat. Non, ce qui me gênait dans Goldorak, c'était vraiment... Les mecs, ils avaient trois morceaux de péloche. Enfin, c'était hyper répétitif. Il y avait toujours les mêmes dessins, quoi. J'étais plus Albator que Ulysse 31. Cobra, bien sûr. Cobra, c'est arrivé un tout petit peu après, quand même, si mes souvenirs sont bons. On est en full gravier, là. Mais c'est cool, c'est cool. Parlons de pop culture. J'ai des belles pièces en figurines animées Dragon Ball, dont un qui est de manufacture française, précisément alsacienne. Cool. Ouais, mais il fallait faire 500 épisodes et à la main, on peut comprendre. Ouais, mais... Voilà. Corno Fulgur, il y avait une séquence et c'était toujours la même, quoi. Ouais, mais les Cités d'Or, c'est une production européenne et ça se sentait un peu. D'abord, il y avait le vernis culturel. Le type de dessin était animé, mais si je ne me trompe pas, les Cités d'Or, c'était une production européenne. XOR, ça me dit vaguement quelque chose. C'est pas un mec, justement, qui avait un casque en or. C'est franco-japonais, d'accord, les Cités d'Or. Ok, franco-japonais. Ouais, les Cités d'Or, c'était trop bien. Je pense que les Cités d'Or ont largement contribué à mon amour de l'histoire. Que j'avais déjà, quoique, ouais, j'avais déjà. En fait, quand j'étais petit, quand on est revenu des États-Unis, on est allé tous les ans en Grèce, en vacances, et on faisait une semaine de visite. Et je pense que c'est vraiment visiter des temples grecs m'a vraiment éveillé mon amour de l'histoire. Ça a commencé là. En faisant le ménage chez mes parents, j'ai retrouvé des vieux carnets de l'époque où je collais des cartes postales et j'écrivais des trucs sur les anciens Grecs, comment ils vivaient et tout, quoi. Les dessins américains de l'époque étaient cheap si on exclut les Disney. Les Hanna-Barbera, il y avait quand même un peu plus de dessins. C'était pas le même modèle économique. Mais non, je suis pas d'accord. Mais on pourrait avoir un débat d'experts. Les Scooby-Doo, par exemple, il y avait quand même un peu plus de séquences dessinées. Les mondes engloutis avec Bic et Bac, alors ça, j'ai pas connu. Et il se baladait à poil avec un casque de vélo et une lance-balai dans le jardin pour faire spartiate. Peut-être pas tout nu, mais oui. Mais j'étais plutôt hoplite que Sparte. Parce que j'étais très fier de savoir ce que c'était que les hoplites. Les snorkels, c'est arrivé un peu après. Tom Sawyer, je pense que c'était aussi... C'était pas un truc franco-japonais aussi ou américano-japonais, Tom Sawyer. Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Mais ça aussi, dans mes souvenirs, ça arrivait un petit peu après, non ? Il n'y a jamais eu de fin à la pub Jace et les conquérants de la lumière. Ah ouais. C'était quoi aussi le dessin animé où il y avait un... C'était Jace et les conquérants de la lumière où ils se battaient contre des espèces de plantes venimeuses je sais plus quoi, là. Il y a eu beaucoup de trucs franco-japonais. Bah, j'avais lu, alors ça date, hein, mais j'avais lu, c'était peut-être une interview de Dorothée ou en tout cas des producteurs de Recréa 2 de l'époque qui expliquaient toute l'aventure franco-japonaise où les Français allaient voilà, au Japon acheter des dessins animés. C'était assez précurseur, quoi. Ah oui, c'était Jace face aux monstres aux plantes. Les Péloponnèses, pas mal. Captain Caverne, ça c'était américain, Captain Caverne. C'était Anna Berber. Captain Caverne. Bon, et si on parlait un peu de tech ? Kitsune franco-japonais, ouais. À toute façon, ça remonte, hein. Enfin, le. Il y a des choses qui rapprochent la France et le Japon. Bon, vous me direz, il y a des choses qui rapprochent les États-Unis et le Japon aussi, mais je pense, ne serait-ce que l'amour de la bouffe et l'amour des ingrédients. Enfin, il y a des choses, je pense que ce n'est pas un hasard si on kiffe le Japon pour beaucoup, les Français, pas tout le monde, hein, mais beaucoup. Je pense qu'il ouais, y a des convergences. Bah, j'en parlais l'autre jour quand j'ai fait du Shogun 2 en live. Effectivement, les relations franco-japonaises remontent à la guerre du Boshin. Où on a aidé le Japon, on n'était pas les seuls, hein, les Américains et tout ça, à moderniser leur armée. Allez lire, c'est super intéressant. J'étais inquiet, on n'avait pas glissé sur la bouffe jusque-là. Bah oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Allez, on va parler quand même un petit peu de tech, surtout que j'aimerais bien qu'on parle de certaines choses. Alors, on va faire un récap un petit peu de la semaine. Alors, je remonte la semaine. De quoi Marion, elle a parlé. Elle a commencé... Ouais, elle a commencé là. Donc Marion vous a parlé effectivement de Apple qui va abandonner la fabrication en fine woven. J'ai fait un format court aussi là-dessus. C'est ce qui était censé remplacer les finitions cuir sur les accessoires Apple, mais c'est un produit qui vieillit. Enfin, c'est une matière qui vieillit très mal manifestement. Apple a dit qu'ils travaillaient sur un. Enfin, alors ils n'ont pas dit, mais ça suppute que Apple est en train de travailler sur un nouveau matériau. Ils ne reviendront pas sur le cuir, ça c'est sûr, mais il va falloir qu'ils trouvent autre chose. Marion vous a parlé aussi des 28 employés de Google qui ont été virés, après avoir fait une protestation contre des contrats passés avec Israël sur le cloud, etc. Effectivement, on y voit déjà des problèmes des géants de la tech par rapport à des situations géopolitiques complexes. On y voit aussi, et c'était un peu l'extrapolation qu'on a fait Marion qui était intéressante, ça montre que chez Google, on n'est plus dans le règne des ingénieurs. Il y a d'autres choses en jeu. Voilà, ça c'était... Merci beaucoup, même là que les formats courts, ça nous demande un peu de boulot quand même, donc merci de nous encourager là-dessus. Marion a aussi parlé de Samsung, qui impose à ses cadres dirigeants de travailler 6 jours par semaine. News surréaliste pour nous Français, qui commençons à parler de la semaine de 4 jours, et qui sommes théoriquement aux 35 heures. Ça nous paraît lunaire. Je trouve ça intéressant parce qu'on voit justement, et si vous regardez un peu sur Arte, il y avait un documentaire sur les problèmes de la Corée justement et du surtravail. Et les jeunes qui commencent à se poser des questions, parce qu'une vie en surtravail, ben, c'est cool économiquement pour un pays. Mais en termes d'épanouissement personnel, c'est peut-être pas le top. Après, il y en a pour tout le monde. Il y a des gens qui sont heureux en travaillant parce que c'est une chose, un pilier central de leur vie. Le problème, en fait, la Corée, vraiment, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la Corée, mais ce qu'il faut comprendre sur la Corée, c'est que la Corée, un peu comme le Japon, ils ont décidé de sacrifier 3-4 générations à devenir des leaders, les fameux dragons d'Asie, et même mondiaux, à devenir très très bons économiquement. Et ils savaient que pendant 3-4 générations, ils allaient en chier. Et la Corée, je crois que c'est encore plus fort que le Japon. Ils ont vraiment, je pense pas qu'ils l'ont mis dans leur constitution, mais c'était vraiment, bon, bah, il y a au moins 2-3 générations, ils vont travailler comme des sourds, seront mal payés, mais on va amener le pays économiquement dans les leaders mondiaux, quoi. Et ils ont réussi. On peut se poser la question... Est-ce que nous, on serait prêt à sacrifier 2-3 générations? Je ne sais pas. Et est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas non plus, je n'ai pas la réponse. Mais c'est des choses intéressantes. Quand tu es dans la génération sacrifiée, tu n'es pas top. Ouais, mais on va dire dans les choses intéressantes, je ne dis pas forcément que c'est une bonne chose. Mais... La notion du sacrifice en pensant aux générations futures et à la richesse d'un pays, au pouvoir d'un pays, je pense qu'en France, on regarderait ça avec des pincettes parce qu'il y a des soupçons de il y a des relents de nationalisme hein, là-dedans, hein, aussi, dans les aspects négatifs. Mais je trouve ça quand même intéressant de penser aux générations futures. Voilà, c'est ça que je veux dire. La Corée, tu fais l'université pour finir comme cueilleur d'amandes aux États-Unis. C'est ce qu'on voit pas mal dans le reportage, c'est qu'effectivement, certaines personnes en ont marre de ce rythme de travail et du coup préfèrent immigrer dans des pays où on travaille moins, en fait. Je pense qu'il faut à la fois un régime politique stable, mais il faut aussi un régime politique autoritaire et il faut aussi... que le peuple, que l'individualisme ne soit pas la chose la plus importante pour le peuple. Et on l'a vu à travers l'histoire, quand certains peuples, effectivement, font l'abnégation de leur bonheur individuel et se sacrifient pour la réussite de leur pays, ça n'a pas donné que des bonnes choses. Hein. C'est sûr. C'est pour ça, moi je dis, c'est absolument pas un débat sur lequel on peut affirmer que c'est bien ou pas bien. C'est souvent des discussions qu'on a autour du Japon ou de la Corée. Il y a des trucs, ils sont vachement mieux que nous, dans le respect de la politesse, le respect de l'autre, le respect de leur environnement. Il n'y a pas un papier par terre alors qu'il n'y a pas de poubelle, etc. Donc on se dit, ah, on devrait faire comme eux. Après, quand tu regardes dans le détail... Il y a des trucs, je suis content qu'on fasse pas comme eux. Voilà. Et même sur juste le travail, si on veut revenir sur l'article. Moi, alors je le pense fortement, ce n'est pas accumuler des heures de travail qui te rend plus productif. Et souvent... Les gens qui travaillent trop, je le dis avec des pincettes parce qu'il y a plein de cas individuels, mais les gens qui travaillent trop, c'est qu'il y a un problème d'organisation, soit de l'entreprise, soit de l'individu. Moi, je suis très partisan des heures intenses pour diminuer les heures de travail. C'est facile à dire qu'il faut sacrifier une génération quand on n'est pas dans la génération sacrifiée. Je pense que c'est aussi des générations qui ont connu la guerre, la pauvreté, la misère, la famine, et qui ne veulent pas que ça réarrive. Ça te donne une certaine motivation à essayer de préserver les générations suivantes de ce genre de fléau, quoi. Ouais, mais de toute façon, honnêtement, moi, je trouve que nos youtubeurs français au Japon et par extension, beaucoup de youtubeurs japonais, quand tu les regardes, nous communiquent quand même pas mal certains aspects négatifs aussi de la vie au Japon ou en Corée, hein. Tout n'est pas rose, hein. L'herbe est toujours plus verte dans le jardin des voisins. Et puis surtout, ça nous sort. Il y a quand même une grande différence entre quelqu'un qui va en vacances quelque part et quelqu'un qui habite quelque part. Moi, je ne me permettrai jamais de tirer des grandes conclusions sur des pays que j'ai juste visités en vacances, quoi. Bref, on a passé beaucoup de temps sur cet article, mais c'est intéressant. C'est intéressant comment. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que Samsung, la réponse. Parce que si Samsung fait ça, c'est parce qu'ils ont des problèmes économiques. Samsung ne va pas très bien sur certains secteurs de Samsung. Et pour eux, la réponse, c'est travailler plus. Une réponse que je trouverais plus intéressante, c'est peut-être, est-ce qu'on n'a pas des problèmes d'organisation? Une réponse américaine, par exemple, à ce type de problème qui nous choquerait tout autant, c'est est-ce qu'on n'a pas trop d'employés? Aussi, parce qu'une manière de mieux gagner de l'argent pour une entreprise, c'est d'en dépenser moins si l'activité ralentit. Voilà. Samsung venait. Alors, après, l'article dit bien que les cadres gueulent un peu hein, aussi. Hein, c'est. De toute façon, en Corée, Chine, Japon, on commence à voir que ces pays commencent à enfin, sont à des niveaux de vie intéressants et les gens commencent à dire bon, bah, ça va le sacrifice, on va peut-être. Il y a un moment, si vous voulez qu'on achète tous les beaux produits là, qu'on fabrique dans nos usines. Faudrait peut-être nous laisser le temps de les acheter, quoi. Salut Basti. Après, pour être complètement transparent, moi, ça m'arrive relativement souvent, peut-être trop souvent, de travailler 6 jours par semaine. Mais c'est pas la même chose. Quand c'est toi qui le décide que quand on te l'impose. Alors, il faut faire attention parce que quand c'est toi qui le décide, tu peux déraper facilement vers le burn-out. Et il y a un côté addictif hein, dans le travail, surtout dans certains métiers, où il y a un mélange entre passion et travail. C'est dur parfois de fermer la porte du bureau. Donc, il faut faire attention aussi. Mais il y a quand même une réelle différence entre venir bosser 6 jours par semaine parce que ton patron ou ton entreprise t'y oblige et le faire parce que tu as un petit problème de workaholisme, quoi. Mais tu vois, voilà, sur les méthodes de travail japonaises, coréennes et tout, moi, il y a un truc que j'aime pas du tout dans ces méthodes de travail, de ce que j'en vois, de ce que j'en sais, hein, je suis modeste, c'est que on te juge beaucoup dans l'entreprise à ta capacité à rester tard et à accumuler des heures de travail. Cumuler des heures de travail ne veut absolument pas dire que tu es productif. Moi, j'ai travaillé en entreprise hein, quand même un bon nombre d'années. Et j'avais des collègues qui étaient très très forts pour faire croire qu'ils travaillaient beaucoup Hein, il y avait la technique du sandwich qu'on laissait sur son bureau ou de la voiture qu'on laissait dans le parking tard le soir pour faire croire qu'on était encore au bureau. Il y en avait qui étaient très forts pour faire croire que c'était des bourreaux de travail, mais en termes de productivité réelle, c'était des merdes. Et je déteste les entreprises où on te juge sur tes méthodes de travail plutôt que sur le travail effectif. Et j'ai toujours lutté contre ça dans ma carrière. Les heures de travail, la souffrance du travail n'est absolument pas un gage de bon travail. Pour moi, le travail, il n'y a que le résultat qui compte, quoi. Et ça fait un bon boulot. J'en ai rien à foutre si tu as mis 5 minutes à le faire. Ça ne m'intéresse pas. J'en ai rien à foutre si tu as mis 3 semaines à en chier pour le faire. C'est le résultat qui compte. Je suis assez dictatorial, mais sur le résultat, pas sur la méthode. Donc, vous ne m'entendrez jamais dire dans ma toute petite équipe à quelqu'un qui me dit « je vais partir là, il est 16 heures, je pars ». Jamais je lui dirais « Ah, tu prends ton après-midi ? » Ah putain, ça, je déteste ça, quoi. Sauf si on te facture à l'heure. C'est pour ça que je fais jamais de contrat à l'heure avec les freelances. Ouais, la veste sur le dossier de la chaise, l'ordinateur allumé, sans veille d'écran. Voilà, je les ai connus, hein, les techniques. Ouais, je sais que c'est difficile à appliquer, mais moi, je suis comme ça. Et tu vois, moi, j'hésite pas parfois à quitter le bureau. Alors, c'est rare, hélas. Mais oui, il m'arrive de quitter le bureau à 15h. Je dis à Karina et Yanis, on se voit demain. Est-ce que vous avez besoin de moi ? Ça, c'est le truc important. S'ils ont besoin de moi, je reste. Mais il m'arrive de me barrer. Bon, généralement, effectivement, c'est pour rentrer chez moi, pour travailler dans un cadre plus... Mais voilà, j'en ai rien à foutre, en fait, des horaires, tant que tu pénalises pas les autres. Ça, c'est important aussi. Si par contre, tu as un rendez-vous et que tu n'es pas là au rendez-vous, si tu as un rendez-vous avec moi et que tu n'es pas là au rendez-vous, là, je vais te souffler dans les bronches, c'est clair. L'iPad est dead tellement Jérôme part dans les graviers. C'est terrible, hein. Je le remets. Oh putain, j'ai cru que vous aviez mon code, mais non. Bon, allez, on continue. J'avoue que j'ai pas écouté quand Marion a parlé de Windows et Young Children's Online. En fait, j'étais en call mardi quand elle a fait le mug. Donc elle a parlé de la présence, oui, elle parlait de la présence des enfants en très bas âge sur les réseaux sociaux et tout ça, les problèmes que ça peut engendrer. Allez réécouter le replay de Marion si vous l'avez raté mardi. Elle a parlé aussi des pays où on passe le moins de temps devant les écrans. Et c'était quoi la conclusion ? L'Europe est plutôt raisonnable. On n'est pas les pires junkies là-dessus. Donc, il y avait un tableau mondial, effectivement, des temps d'écran à travers le monde. Et ça va, nous, 5,26, la France. Je n'ai pas les chiffres pour la Suisse et la Belgique. Vous êtes trop petits, les gars, on n'arrive pas à écrire. Eh, les gars, vous avez des pays trop petits, on ne peut pas écrire, on peut pas écrire sur vous. Canada 6,35, la Russie 7,57, Japon ça a l'air d'aller 3,45. C'est qui ça? C'est les Philippines. Philippines, vous avez un problème, hein. 9,14, hein. C'est violent quand même. C'est violent. 9,14. Oh, ça fait un peu beaucoup. Hein. Petit mais costaud. Ouais, mais on ne peut pas écrire sur vous. On ne peut même pas écrire le nom de votre pays sur votre pays. Afrique du Sud, 9,38. Ah ouais, j'avais pas vu. C'est les pires. Ah, ça se bat un peu avec le Brésil. Ah ouais, j'aurais pas pensé, tu vois. J'aurais pas pensé. Comme quoi, hein. C'est fou, hein. Ouais, le Brésil. Mais qu'est-ce que vous foutez là-dessus? Non, mais alors, pauvreté, je sais pas, parce que, par exemple, l'Afrique du Sud, il y a de la grande pauvreté en Afrique du Sud, c'est loin d'être le pays le plus pauvre d'Afrique. Et pareil pour le Brésil. Je suis pas sûr qu'on puisse extrapoler une règle pauvreté plus de temps devant les écrans. Ouais, non, vraiment, je lirais pas ça forcément la pauvreté. En Afrique du Sud, ils ont le programme de récompense TikTok Lite, ouais. Le truc, c'est que ces heures mélangent le temps sur mobile et desktop, donc difficile à distinguer, ouais. Bah, allez lire l'article ou allez réécouter, parce que Marion a probablement plus décortiqué l'article que je ne le fais. Vous retrouvez tout hein, sur notre Flipboard. Flipboard Nowtech, vous retrouvez tous les articles qu'on sélectionne. Pas d'ailleurs que les articles qu'on met dans le mug, mais en gros, toute notre pige presse est dans le Flipboard, Nowtech. On nous dit, ouais, le Brésil, ça s'explique à cause des heures de transport plus longues. Ouais, ouais, il y a peut-être de ça aussi. Ouais. Merci, Oleg, qui a mis le lien vers le Flipboard. On a parlé de TikTok Lite, on va peut-être pas revenir dessus. Vous savez que hier, justement, avant-hier même, TikTok est revenu en arrière, en tout cas en Europe. Ils ne vont pas appliquer finalement le TikTok Lite, qui était le programme qui vous récompensait en bons d'achat plus vous regardiez des vidéos sur TikTok. On a dit tout le mal qu'on pensait de toute façon de ce système. Marion vous a beaucoup parlé du phénomène Fallout, série excellente, hein. Y a pas à dire, qui a vraiment relancé la hype Fallout. C'est vraiment marrant à voir. Comme quoi, la chose intéressante, c'est de noter qu'on y est. On y est à la génération où les jeux vidéo sont un pivot culturel qui fait que sortir des œuvres de fiction dans des univers de jeux vidéo auxquels on a joué, moi j'ai des souvenirs du premier Fallout qui date hein, maintenant, sont des gages de réussite. Quoi. On a basculé d'un monde où on adaptait en jeux vidéo les films de la pop culture à un monde où on adapte les jeux vidéo en série et en film. Et ça, c'est intéressant. Et en vrai, il y a plein de jeux vidéo qui sont des licences hyper intéressantes et des univers hyper intéressants. Mais ouais, série inattendue, tu m'aurais dit, ouais, il va y avoir une série sur Fallout. Ça a pué la merde. Et en fait, non, très très bonne série, hein, Fallout. Il n'y a pas à dire. Marion a beaucoup parlé aussi de la polémique autour de The Crew, sur la polémique de fond, est-ce que les jeux vidéo vous appartiennent quand vous les prenez en ligne, quand vous les prenez par Steam? La loi a tranché, les jeux vidéo ne vous appartiennent pas. En gros, la polémique est venue d'un jeu The Crew, où ils ont décidé de couper les serveurs parce que plus grand monde y jouait, rendant le fait que les gens aient acheté le jeu, bah, ils ne pouvaient plus y jouer, puisque c'était en ligne. Et la loi a donné, entre guillemets, ce droit au studio de couper les serveurs d'un jeu, même si les gens ont payé le jeu. C'est un débat extrêmement complexe. Moi, je pense que de toute façon, l'avenir du jeu vidéo, c'est ce qu'on commence à voir avec le Xbox Game Pass. Plus un système, effectivement, d'abonnement. Ça va se rapprocher, à mon avis, d'un système à la musique, comme on a en musique. Je vois pas d'autre alternative. On ne reviendra pas au support physique. On ne reviendra pas au support physique. Je ne suis pas sûr que tout le monde va revenir aux jeux piratés parce que le problème des jeux qui se jouent en ligne, et beaucoup de jeux maintenant ont quand même des modes en ligne ou ont le en ligne obligatoire, complique quand même vachement le piratage, donne des jeux auxquels tu ne peux pas tout faire quand tu les pirates, quoi. Est-ce que cette loi s'applique aussi aux films achetés en ligne aussi ? Je pense que de toute façon, dans 10-20 ans, on va avoir un problème. C'est que c'est un peu le même problème que les cassettes VHS, parce que vous dites le physique, au moins le truc nous appartient. Aujourd'hui, on peut toujours acheter un magnétoscope, hein, si vous avez une grosse collection de VHS. Mais ça va devenir compliqué. Donc vous allez quand même acheter physiquement le film, la cassette, mais au bout d'un moment, les moyens de le lire vont disparaître. Et c'est peut-être ce qui arrivera avec certains films ou certains jeux qu'on a achetés en numérique. Il n'y aura même plus les logiciels pour les lire. Donc, le physique ne résout pas ce problème-là, parce que le physique est aussi lié à des méthodes de lecture du média que tu as acheté. Moi, personnellement, je ne rentre même pas dans le débat. Je suis relativement serein avec l'idée. En fait, j'ai tellement dématé les choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai dématérialisées qu'en vrai, ça me va de payer le prix pour la jouissance d'une expérience pendant un temps donné. Je ne suis pas un collectionneur. Et honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé de lancer un jeu qui a genre 15 ans de... Si, éventuellement, d'y revenir sur un trip. Je ne suis pas très rétro gaming, en plus. Moi, je sais pas, je pense pas que l'avenir est... Je pense pas que l'avenir est au propriétaire. La phrase qui tue, qui va déclencher la polémique. Non, mais je crois que... Alors, ça marchera pas avec tout. Il y a des choses, on a besoin de l'avoir physiquement, il est à nous, ok. Mais en fait, moi, je suis prêt, en tout cas, pour un monde d'expérience. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une perceuse ou un perforateur chez moi quand je l'utilise? Allez, les grosses années, je vais l'utiliser 2-3 fois par année. Si j'ai la facilité d'accès à l'outil, moi, je veux bien le partager avec d'autres, quoi. Je ne suis pas un amoureux des outils que je mets amoureusement. Après, je comprends les collectionneurs. Et moi, il y a des choses, j'aime bien avoir les objets. Et là, oui, je veux les avoir en physique, etc. Mais c'est presque le côté collection. Regardez mes sacs Peak Design, voilà, j'aime bien les avoir, les mettre sur un mur, les regarder. C'est débile, quelque part. Je pourrais louer des sacs. Donc, je comprends. Et... À la limite, chacun fait son délire sur certains outils physiques. Mais moi, il y a plein de choses dans la vie, je les utilise tellement peu que si tu me dis, avec un abonnement, tu peux prendre ce type d'objet quand on a besoin, et puis d'autres vont en profiter aussi, ça me va, quoi. Moi, honnêtement, ça m'irait assez bien de m'abonner, par exemple, à un magasin de bricolage qui me donne le droit à aller chercher des outils dont j'ai besoin quand je fais du bricolage, parce que c'est relativement rare, quoi. Et les jeux vidéo, je suis assez à l'aise avec le système Xbox Game Pass. Je sais que le jeu, je ne l'aurai pas toujours. Je paye le même prix tous les mois, ça me permet d'avoir un budget prévisionnel sur le jeu vidéo. J'y joue quand ils sont dispo. Ça me dérange pas de plus l'avoir quand j'ai fini de jouer, quoi. Je suis d'accord, Oleg. Actuellement, la location d'outils existe et j'en ai loué, hein, d'ailleurs. Il y a des outils que j'ai pas parce que je l'ai utilisé une ou deux fois, quoi. Mais le système, il y a encore trop de friction. Le problème est comment on fait si tout le monde a besoin de l'objet partagé au même moment. Ça, c'est le problème du loueur. Il doit faire des barèmes. C'est à lui d'analyser l'usage des outils et d'avoir les stocks suffisants. Donc, ouais, moi, sur ce débat, je suis relativement tranché. J'ai pas besoin de posséder pour être heureux, personnellement. Mais je suis d'accord, il y a encore beaucoup de problèmes au système que moi, j'aimerais. D'abord, c'est trop cher, la location, parce qu'elle est trop ponctuelle. Et il y a trop de friction. Effectivement, il y a trop peu d'outils, par exemple, en location. Tu es obligé d'attendre, machin et tout. Il faut aller le chercher la plupart du temps. C'est relou si tu n'as pas une camionnette. Voilà, il y a encore trop de friction au système. Alors, pour donner un exemple plus concret, je suis parfaitement à l'aise avec le fait que je ne possède plus ma musique. Parce que je ne suis pas un collectionneur en musique. Marion, elle a des très beaux 33 tours. Et ça, je comprends, l'objet est joli. Mais j'en ai un peu rien à foutre sur la question « je possède ma musique ou je ne la possède pas ?» quoi. Et les jeux vidéo, c'est un peu pareil. Parce que l'expérience de gamer que j'ai, c'est que je reviens assez rarement sur des jeux qui ont plus de 10 ans déjà. Le jeu où j'ai probablement passé le plus d'heures, c'était un abonnement World of Warcraft. Donc oui, je possédais les CD, mais sans payer mon abonnement, je ne pouvais pas jouer. Je suis assez à l'aise en fait avec la démat et le système que ça ne m'appartient pas en fait. Mais j'opposerai une réserve à ça. Faisons la législation. Je trouve que on devrait être mieux protégé en tant que loueur de jeu à notre capacité, si on loue un jeu, de. C'est pour ça que j'aime bien le Xbox Game Pass. C'est que je paye la même somme et je joue à ce que je veux. Et si le jeu est merdique, j'ai pas l'impression d'avoir dépensé 70€ pour un jeu merdique que je peux pas revendre derrière. En fait, moi, mon gros problème, c'est aujourd'hui ça. Si j'achète 70€ un jeu sur Steam et qu'il me plaît pas et que j'y joue pas, je sais que j'ai un droit de rétractation, mais que je trouve relativement court, parce que parfois, je joue pas tout de suite à un jeu que j'ai acheté. J'aimerais une meilleure protection de ça, quoi. Ouais, alors c'est un argument, papy, qu'on donne souvent, papy 5G et B. Quand il n'y a pas de réseau, tu ne peux pas jouer. C'est très rare. Alors, je ne parle pas des jeux mobiles ou des Steam Deck ou ce genre de trucs où je pense qu'il y aura une catégorie de jeux auxquels tu pourras jouer hors connexion. Moi, c'est extrêmement rare les moments où je joue où il n'y a pas de connexion du tout. C'est super rare. Alors, oui, j'habite pas dans une zone blanche en France où les connexions sont compliquées, etc. Mais deux heures de jeu pour le tester ou 14 jours, je trouve ça cohérent, moi, les salles. En fait, moi, je sais qu'il y a une entreprise française, d'ailleurs, je crois que c'est des anciens de Shadow qui l'ont lancé. En fait, je vais vous dire, le modèle économique des jeux, tel que je le vois, le modèle parfait, c'est que tu pourras jouer à travers ton navigateur à pendant 15 minutes, une heure. Tu pourras jouer un jeu, il sera complet, mais il sera sur des serveurs à distance. Un peu comme un Shadow. Ce qui te donnera largement le temps de tester le jeu pour voir si ça te convient vraiment. Et après, bah, tu prends le jeu. Et là, tu peux l'installer en physique, l'optimiser, etc. quoi. Et je sais que c'est en train de lancer ça en France, un système où si effectivement les éditeurs de jeux le permettent, tu pourras jouer pendant un certain temps à travers ton navigateur au jeu sur des serveurs à distance, type Shadow. Et si le jeu te plaît, bah après tu payes. Ça, je pense que c'est l'avenir. Merci Belette Folle pour ton 18e mois d'abonnement. Merci Power Loutre. Ah, on a la loutre et la belette. Ah, mon iPad qui se met en veille tout le temps. Ah, mais c'est vrai que j'ai remis la veille. J'avais plus la veille sur mon iPad. Il faudrait que j'enlève. Merci, ouais, Power Loutre pour ton 31e mois d'abonnement. Merci Eru Rokwai pour ton 48e mois d'abonnement. Merci Psyuan 38 pour ton Prime. Merci Dentologue pour ton 39e mois d'abonnement. Merci Anaïs Cerise pour ton 25e mois d'abonnement. Merci Aloun 75 pour ton 19e mois d'abonnement. Merci Richie pour ton 17e mois d'abonnement. Merci Sarko.net pour ton 24e mois d'abonnement. Merci Philrine 510 pour ton 28e mois d'abonnement. Merci Langelot pour ton 32e mois d'abonnement. Merci ACIP Digital pour ton 27e mois d'abonnement. J'ai fait tout le monde là, je crois. Si un jeu Ubisoft disparaît de leur plateforme alors que tu aimes le jeu, tu ne pourras plus jamais. Moi, je vous le dis juste, est-ce qu'on n'est pas en train de parler d'exception pour mettre le doigt sur un problème qui n'en est peut-être pas un? C'est une réflexion. Combien de fois vous vous êtes retrouvé dans la situation, est-ce que ça vous arrive beaucoup qu'un éditeur de jeu arrête les serveurs d'un jeu auquel vous jouez encore? Est-ce que c'est pas plutôt, ça me fait chier de me dire que je pourrais plus y jouer? Mais en vrai, est-ce que tu vas vraiment y rejouer? Merci Caniche en papillote. Décidément, c'est les animaux en folie. Caniche en papillote pour ton 2e mois d'abonnement. Merci beaucoup à CIP Digital qui offre 10 abonnements communautaires, c'est la fête. Mes sons sont très décevants. Non, pas ça. Non, non plus.
Salut à tous.
Oh, Guillaume. Merci à CIP Digital. En vacances, je visite, je joue pas, sinon je reste chez moi. Bah, en même temps, moi, j'étais content d'avoir des jeux vidéo en Bretagne quand il a plu toute la semaine. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Le choix discutable des sons, tout à fait. Non, mais je suis d'accord. Et X7N. Après, il y a le problème du prix. Je ne dis pas que c'est la panacée, hein, ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il y a plein de problèmes à résoudre. Je ne suis pas prêt à payer 70 euros pour ce genre de système, le jeu, tu vois. Ah oui, non. Non. On ne va pas être pigeon jusqu'au bout non plus. Non, il va falloir sérieusement revoir à la baisse les prix des jeux pour basculer dans ce monde-là. Ouais, mais enfin, si on parle des vacances, moi, les vacances, c'est aussi de la détente. Alors, c'est bien sûr, si je, au Japon, je ne vais pas jouer aux jeux vidéo, j'ai autre chose à faire le soir. Mais pour d'autres vacances où je veux... Moi, jouer aux jeux vidéo, ça me détend, ça me repose. Il y en a qui amènent des bouquins. Moi, j'aime bien pouvoir amener un jeu vidéo, quoi. Franchement, je trouve un peu dur avec les gens qui amènent des jeux vidéo en vacances. Les vacances, effectivement, partir à l'étranger, tout ça, t'es là pour voir des choses. Mais il y a aussi des vacances, on y va pour se reposer, hein. Pas forcément voir des choses. Moi, honnêtement, si je vais sur des vacances vraiment de repos, genre plage, je fais jamais ça. Mais imaginons, je vais me reposer sur une plage. À la limite, le soir, je préfère jouer à Baldur's Gate 3 que d'aller boire des mauvais cocktails tièdes au bar du coin, hein. Il est 18 heures d'avion. Je vais travailler, je crois. C'est 15 heures d'avion l'aller. J'ai déjà du boulot de prévu. Je vais essayer de dormir parce que j'ai tellement de boulot en arrivant. Je vous jure, Japon, c'est très cool. Hein. Je suis très content. Mais ça va être intense au début. Ça va être intense. J'ai pas le droit d'avoir du décalage horaire. Hein. Non, 15 heures, c'est le vol direct. Comme on ne peut plus passer au-dessus de la Russie pour les raisons qu'on connaît. Paris-Osaka, parce que j'atterris à Osaka, c'est 15 heures d'avion. Là. Le retour, c'est plus rapide. Parce qu'on a le vent dans le dos et on sortira les voiles. Mais l'aller, c'est 15 heures. Ouais. Je voyage avec Air France. La dernière fois, j'étais allé avec Japan Airlines, mais là, c'est Air France. Je repose. Quand tu sais qu'un GTA 6 coûte plusieurs milliards à produire, un Red Dead 2 environ, c'est difficile aussi de le vendre à moins de 70 balles. Je pense que de toute façon, c'est pour ça que je pense que moi, l'avenir... Vous allez rire et on va se moquer de moi. Mais je me demande si l'avenir du jeu vidéo n'est pas dans des modèles un peu comme Star Citizen, où il y a des gens qui ont déjà claqué genre 6 000 dollars dans le jeu alors qu'il n'est même pas fini. Moi, je pense que soit il y a des jeux, tu vois, par exemple, je donne un exemple, Total War Warhammer 2 ou 3. J'y ai passé tellement d'heures qu'honnêtement... Et d'ailleurs, j'ai acheté quasiment tous les DLC. Ça ne me dérangerait absolument pas de dépenser 200 euros dessus, vu le temps que j'y passe. Par contre, il y a des jeux, j'ai joué une dizaine d'heures à tout casser, et de les payer 70 euros, ça me fait mal au cul. Donc, je crois beaucoup à des modèles de paiement progressif. Je comprends ce que tu dis, tu as tout à fait raison. Il y a des jeux qui coûtent extrêmement cher, bien plus cher que des films aujourd'hui à produire. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Mais je pense que le modèle économique du futur, c'est un ticket d'entrée moins cher, mais ensuite, suffisamment construire le business model pour que ceux qui accrochent vraiment au jeu se mettent à dépenser beaucoup plus que 70 euros. et que ceux qui ont une expérience finalement limitée du jeu, qui s'arrêtent au bout d'un moment, ne se retrouvent pas avec un trou de 70, quoi. Parce qu'honnêtement, le problème du 70 euros ou du 100 euros ticket d'entrée, je sais pas vous, mais moi, du coup, je vais pas dire que ça m'incite au piratage, parce que pour moi, le piratage est devenu trop compliqué, j'ai pas le temps de pirater des jeux, je vais être honnête, j'en ai piraté dans ma vie, je le dis, je rougis pas, voilà, ça m'est arrivé, je l'ai fait beaucoup aussi à une époque, aujourd'hui, j'ai absolument plus le temps, mais il y a plein de jeux. Aujourd'hui, je les vois, je me dis j'aimerais bien y jouer, mais je vais attendre qu'ils soient en solde. En fait, j'attends vachement les soldes maintenant. C'est relativement rare, à part quelques bangers auxquels j'ai vraiment envie de jouer, que je dépense plus de 20 à 30 euros pour un jeu vidéo. Donc, je pense que vraiment, le modèle économique du jeu vidéo doit être revu hein, aussi. On est encore sur un modèle presque physique. Bon, on passe beaucoup de temps là-dessus, mais c'est intéressant. C'est intéressant, un sujet à creuser. On va avancer un peu. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais Apple donc, a annoncé que le 7 mai, il y allait avoir une keynote. L'heure est surprenante parce que ça sera 16h en France, ce qui veut dire 7h du matin s'ils la font en Californie. Je suis assez intrigué. On est quasi sûr que ça va parler que d'iPad. Je suis un peu intrigué par 7h. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire parce que 7h du matin, c'est très tôt quand même. Parce que ça veut dire que les journalistes... Enfin, ceux qui vont se rendre sur place ou ce genre de truc, ça veut dire se lever à 5-6h, quoi. Si tu as un peu de route à faire... habituellement, les keynotes Apple, c'est plus vers les 9h du matin. Alors, s'ils le font à New York, ça s'explique. Si c'est à New York, ça s'explique. Mais pourquoi ils le font à New York ? Intriguant aussi. Très intriguant. C'est le seul truc intriguant parce que je pense que on va pas avoir énormément de surprises. Ça va être une mise à jour des iPads. Mais vous attendez pas un iPad triangle ou un iPad pliant. Ça va être relativement court. C'est juste qu'à mon avis, c'est vraiment une keynote pour se débarrasser des annonces d'iPad pour préparer celle du 13. C'est le 13. Non, le 11, le 10, le 10 ou le 11 juin, où là, il y a la grosse keynote WWDC. Comme ça, ils n'auront pas à parler des iPads. Oui, ça sera une vidéo, hein, pas une présentation physique, mais ça n'empêche pas de faire venir les journalistes. Hein, ça, c'est ce qu'ils font depuis quelques années maintenant. Donc, c'est plus une keynote de délestement qu'une keynote importante. Celle de juin, et d'ailleurs, je vous le dis, non pas que je sois un grand sacrifié, mais comme Tim Cook a décidé de faire sa keynote de la WWDC en plein pendant mes vacances, salaud et moi en plus, bah avec le décalage horaire, la keynote elle est à 2h du matin, je ne vais pas faire un live, mais par contre je me suis pris une chambre d'hôtel à moi tout seul, je me coupe une journée de vacances, pour essayer de vous faire une vidéo sur la keynote rapidement du Japon. Alors, il y a une marge d'erreur, c'est que si mes réseaux sont à chier, j'y arriverai pas. Et ça, il y a des inconnus. J'ai pris un maximum de précautions pour avoir le meilleur réseau possible. Mais ça veut dire quand même que je vais me lever, que je vais être dans une chambre d'hôtel, me lever à 2h du mat pour regarder la keynote et pondre une vidéo derrière. Je vous garantis pas que ça sera la plus belle vidéo de la chaîne. Ça va être filmé à l'iPhone Avec, avec, en plus, j'ai pris un hôtel vraiment pas cher. C'est pas un capsule hôtel, mais c'est pas loin. Bon, je vais essayer en tout cas de vous faire un récap de la keynote pour que vous l'ayez le lendemain matin, hein, bien tranquille. Je ne sais pas si je serai aussi rapide que mes collègues français qui seront en France tranquille, qui auront toute la nuit pour travailler. Mais non, non, il vaut mieux que je fasse le montage moi-même parce que le problème, Renardo, c'est que si j'envoie les rushs en France, le temps qu'ils les reçoivent, tu sais, on a réfléchi à tout ça. Le temps qu'ils reçoivent les rushs, on perdrait finalement plus de temps. Donc, c'est pas évident. Si jamais tu as un réseau pourri, upload la vidéo d'un PC bang. C'est quoi un PC bang ? Je sais pas ce que c'est que les PC bang. Non, mais vous inquiétez pas, je vais y arriver. Mais j'ai quand même dit à mon équipe qu'il y a 20% de chances que ça rate. Ah, c'est des cybercafés. Oui, oui, non, mais j'ai regardé ce qu'il y avait autour. Le truc, c'est que je suis à ce moment-là, je serai à Osaka à ce moment-là. Il faut que je regarde. Mais effectivement, je vais regarder les cybercafés, mais je veux être dans une chambre d'hôtel pour enregistrer la vidéo. Parce que ce n'est pas dans un cybercafé que je vais enregistrer la vidéo. C'est compliqué. Surtout que je serai en solo. Hein. Karina ne sera pas là. En 5G, ça ira, pas de souci. C'est parfois ce que je me suis dit dans des endroits 5G et j'ai eu des soucis quand même. Non, mais bon, écoute, normalement, voilà, l'hôtel, il a pas une trop mauvaise connexion d'après les avis que j'ai vus. On va voir. On se démerdera. On se démerdera. Ouais, les 5G qui ont un débit de 3G, on connaît, ouais. On connaît. Bref. Je parle de ma vie. Mais on verra bien le 7. Là aussi, pareil, on va voir si c'est intéressant de vous faire une vidéo ou pas juste avant mon départ sur les annonces des nouveaux iPads. Peut-être qu'on fera une vidéo « N'achetez pas le nouvel iPad, sauf si ». Je vous donne déjà le titre. « N'achetez pas le nouvel iPad Pro, sauf si ». Très bon titre. Ça, ça marche, on clique hein, là-dessus. Ce dont on a parlé hier aussi, c'est que Apple a publié son modèle de langage OpenELM, un modèle de langage open source. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise. Un modèle léger, c'est-à-dire un modèle, on sent que Apple est en train de travailler sur des modèles de langage qui pourront être embarqués et non pas faire appel à des serveurs distants. Donc, ils seront un peu moins performants que des grands modèles de langage en IA générative, mais ils auront l'intérêt d'être extrêmement rapides en réponse, parce que ça, c'est un des problèmes des IA génératives conversationnelles, c'est que les délais des réponses sont encore un peu longs. En plus, il y a les trucs de confidentialité. Donc, on sent bien que Apple est en train de travailler sur l'IA générative en local sur les iPhones. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. On a donc parlé de TikTok Lite, que TikTok suspend en Europe. Joe Biden lance une course contre la montre. TikTok, ça fait tic-tac, comme on disait hier. Et j'ai lu ce matin en entrefilet aussi que TikTok était en train de regarder les manières éventuelles. Ils disent que non, ils ne revendront pas aux États-Unis et tout, leur filiale américaine. Mais ils sont quand même en train de regarder comment ils pourraient vendre leur filiale américaine aux Américains sans leur vendre l'algorithme. Parce que le vrai trésor de guerre de TikTok, c'est pas la marque, c'est pas l'appli, c'est leur algo. Et ça, ils veulent pas que ça tombe dans les mains des Américains. Donc on est, et ça fait des années que ça dure déjà, on est dans un jeu de « tu me tiens, je te tiens par la barbichette ». Personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir dans cette histoire. C'est pas les méchants Américains qui veulent voler les propriétés des Chinois. C'est pas non plus les méchants Chinois qui espionnent tout le monde. Il y a beaucoup de nuances dans ces histoires. Voilà. Dommage pour TikTok, j'ai chopé 5 euros de bon PayPal. Et combien tu leur as rapporté sur Newt ? Est-ce que tu t'es posé les questions ? En fait, ce que j'ai lu et qui est très intéressant, les Américains, s'ils veulent poser la patte sur TikTok États-Unis, c'est pas tant pour gagner de l'argent avec TikTok. En fait, les Américains savent très bien que les réseaux sociaux, il y a des cycles. TikTok va devenir un truc de boomer. Enfin, ça sera plus les boomers, ça sera les Gen X dont je fais partie, les plus vieux. En gros, le réseau social va vieillir et un nouveau réseau social va émerger. Et en fait, les Américains ont été tellement échaudés par le fait que c'est un peu TikTok qui a raflé la mise de la nouvelle mode des réseaux sociaux. Ils veulent s'assurer que le prochain réseau social à la mode soit bien américain. Donc, on est dans des règles de la concurrence à l'américaine où tous les coups sont permis. Donc, voilà, ça, c'était pour les histoires concernant TikTok. Et on va passer maintenant, justement, j'avais juste deux news dont je voulais parler. On a parlé aussi des droits de la réparation, mais on en a parlé hier. Que Sony allait enfin abandonner ses noms compliqués pour des noms un peu plus intelligibles. Y a deux articles que je vous invite à lire aujourd'hui. D'abord sur les États-Unis, qui certaines personnes aux États-Unis, et notamment la FCC, se bat pour rétablir le principe de neutralité du net. Je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine, c'est quelque chose de super important, vous savez, pour nous. L'administration Trump a flingué la neutralité du net. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la neutralité du net, c'est un principe très simple. Aucune donnée ne doit être favorisée par rapport à une autre. Et en fait, ça vous paraît pas important, mais c'est super important. Parce que si demain, on permet aux opérateurs de favoriser tel ou tel contenu sur Internet comme ils le veulent, ils vont bloquer complètement la naissance de concurrence, et notamment d'opérateurs concurrents. Donc si on donne à Orange, par exemple, le pouvoir de dire ben, « Chez moi, Netflix sera plus rapide et vos mails seront prioritaires », ça vous semble une bonne chose. Mais ça veut dire que Orange bloque complètement l'émergence éventuelle d'un concurrent d'Orange. Et ça, c'est un gros problème. Il y a plein d'autres problèmes hein, dans la neutralité du net. Et il y a plein de lobbying anti-neutralité du net. Et notamment aux États-Unis, les grands fournisseurs d'accès font beaucoup de lobbying contre la neutralité du net. Voilà. Donc ça, c'est un sujet intéressant qui vous concerne. Je pense que je vais en reparler la semaine prochaine si j'ai l'opportunité de le faire. Un autre truc, parce que ça a beaucoup circulé cette semaine. Et c'est vrai que c'est un lieu... C'est une pensée populaire qu'on a, donc je tenais quand même à vous le dire. Même moi, je l'avais il n'y a pas si longtemps. Vous savez, le fait de tuer vos apps sur votre iPhone, c'est-à-dire de killer ces apps, le fait de les slider vers le haut pour les fermer. On pense que c'est pas bien de les laisser ouverts. Apple confirme que c'est tout l'inverse. En fait, quand vous démarrez une app qui est fermée, elle va consommer beaucoup plus de ressources que si vous la laissez ouverte en mode sommeil. Donc Apple le confirme, à moins que vous ayez un plantage sur une app, ne fermez pas vos apps. Ne passez pas du temps à fermer vos apps en croyant que vous allez rendre votre iPhone plus rapide ou consommer moins de batterie. Et effectivement, ça fait des années, Guillaume l'avait dit dans une vidéo et tout ça. Mais Apple l'a reconfirmé. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que de fermer les apps rend l'iPhone plus rapide et consomme moins d'énergie. Et je suis sûr, là, il y en a qui osent peut-être pas le dire. Ben voilà, Quentin l'a là, et c'est bien, au moins t'es franc. Mais moi aussi, hein, cette croyance était tellement ancrée que de temps en temps, je me dis, allez, je repars à zéro, je kill mes apps. Et heureusement, je me dis, mais non, en fait, ça sert à rien. En fait, c'est un peu comme les méthodes de sauvegarde de batterie. Ça, c'est des trucs des premiers âges des smartphones. C'était vrai sur les premiers smartphones. Ben, en fait, tu kills quand tu t'en sers plus. Ce qui est plus malin à faire, moi, je trouve, c'est d'activer le système dans iOS qui va désinstaller les apps que vous n'utilisez plus. Ne pas les killer, ne pas perdre de temps à les killer, parce que ça, c'est de la perte de temps en plus. Ce que vous explique Apple, c'est que de redémarrer une app fermée va consommer beaucoup plus de batterie et de ressources que de démarrer une app qui est ouverte en tâche de fond, mais qui est en mode sommeil. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pareil pour Android, oui. Je crois. Un grand merci Paycoman02 pour ton 10e mois d'abonnement. Merci Zirko33 pour ton 26e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs. Non, non, ça ne dépend pas du temps de sommeil. Je m'aperçois que je touche des résistances chez certains. Vous êtes quand même persuadés que ça consomme un peu trop d'énergie d'avoir des apps ouvertes. Non, non, non. Apple vous le dit, le mode sommeil ne consomme pas du tout d'énergie ni de puissance de votre iPhone. C'est le meilleur mode pour que votre app reste en veille et du coup consomme moins d'énergie quand vous l'ouvrez. Si vous la fermez complètement, elle va consommer beaucoup plus d'énergie et de ressources rien que pour se réouvrir. C'est un peu comme le coup des bagnoles. Couper complètement sa bagnole, c'était à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais les gens qui coupaient le moteur au feu et qui le redémarraient, bah en fait, ça bouffe plus d'énergie que si tu te mets en pause, quoi. Non, mais Renardo Glacial, soyez franc. Vraiment, est-ce que dans votre iPhone, vous faites ça, cycler dans les apps ouvertes pour aller ouvrir une app, c'est ça que vous faites? Dans votre carrousel d'app ouverte, c'est comme ça que vous ouvrez vos apps? Il faut pas, hein. C'est pas comme ça qu'on fait. Ben non, Renardo, c'est beaucoup plus simple. Tu fais slide vers le bas, tu tapes les deux premières lettres de ton app, elle va apparaître là et tu cliques dessus. Faites pas ça, faites pas le carrousel. Franchement, vous perdez du temps. Slide vers le bas. Tapez de... Non, ça va beaucoup plus vite. Renard, alors là, je suis désolé. Allez, gars, vous... Allez, n'importe quoi. Est-ce que j'ai des trucs compromettants sur mon iPad? Attendez, avant de vous faire la démo. Là, 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 là. Tiens, ça, je vais le fermer pour pas que vous le voyez. Parce qu'il y a des choses, il faut pas que vous voyez. Ouais, je vous cache des choses. Oh là là, j'ai des choses à... Il y a du porn. Non, il n'y a pas de porn. C'est décevant, il n'y a pas de porn. Dans mes trucs ouverts. Ok. Ok, on va faire la démo. C'est parti, let's go. Voilà, j'ai mon carrousel d'ouvert. Tiens, je vais fermer les mails, parce qu'il y en a qui ont des bons yeux. Je vais fermer le Trello aussi. Je vais fermer ça, voilà. J'ai mon carrousel d'app ouvert, ok? Alors vous, ce que vous faites là, c'est que vous allez chercher l'app que vous voulez dans le carrousel des apps ouvertes. C'est ça que vous faites. C'est ça que vous faites. Franchement, vous avez vu le temps que ça me prend? Non mais sérieux, faites pas ça. Faites plutôt ça. Attendez, il faut que je vérifie que j'ai rien de compromettant sur mon écran d'accueil. Rendez-vous. Bon, je ne vais pas me mettre sur ma page d'accueil. Je fais un test. Hop, ok, ça marche. Voilà. ce que vous devez faire pour aller vite, pour ouvrir une app, c'est pas chercher son icône, hein. Ce que vous devez faire, slide vers le bas et vous faites, je sais pas, qu'est-ce qu'on va ouvrir, vous voulez ouvrir l'app YouTube, vous faites, même Y, ça suffit. Voilà, YouTube, boum, je lance YouTube. Bah, quand même plus vite, non ? Je sais pas, moi, c'est comme ça que je fais, quoi. Et puis, depuis un bon bout de temps, hein. Il ne viendrait pas à l'esprit de chercher l'icône de l'app ou d'aller chercher dans le carrousel l'app pour l'ouvrir. Moi, je range plus mes icônes depuis longtemps, hein. C'est le bordel, mais j'en ai plus rien à foutre, hein. Oui, tu peux utiliser Siri. Le seul problème avec Siri, c'est qu'une fois sur cinq, elle ne va pas te comprendre. Donc, voilà quoi. Mais quand tu es sur une app, tu reviens au bureau et tu fais ta recherche. Ça dépend. Bah après, tu as des gestes hein, pour rappeler Lightroom, même quand tu es dans une app. Hein. Ah non, moi, je suis à fond sur la recherche. Hein. Bon. Chacun ses méthodes, mais je suis surpris. Mais c'est intéressant. Je suis surpris que certains utilisent le carrousel pour. Je suis surpris. Ça s'appelle des habitudes. Mon grand-père disait que la seule bonne habitude, c'est de pas en avoir. Et il avait raison, mon grand-père. Il faut changer ses habitudes. Et en vrai, moi, c'est Guillaume hein, qui m'a... Guillaume, quand il m'a vu, moi, je faisais vraiment à l'ancienne. Hein. Je cherchais mon app dans mes pages d'app pour l'ouvrir. Et Guillaume m'a fait, mais tu sais que Spotlight, ça existe et c'est beaucoup plus rapide. Et au début, j'étais pareil. Ouais, non, mais j'aime bien chercher mon app, les icônes, c'est joli et tout. Et en fait, je m'y suis mis et ça m'a changé la vie. Hein. Honnêtement, si tu te souviens plus du nom de l'app, c'est que tu l'utilises plus. Lorraine Père. Ah, sur Mac, je fais à peu près pareil aussi, ouais. Bon, revenons à nos moutons, parce que ce que j'aimerais, et déjà 9h23, c'est qu'on parle un peu du Rabbit Air 1. Et moi, j'ai regardé ce matin la vidéo d'Unbox Therapy. Qu'on va commenter un petit peu ensemble. Je vais essayer de voir si on peut avoir le son de l'iPad. Attendez. Je vais essayer de vous avoir le son de l'iPad. Non, c'est pas ça. Il faut que je refasse la config. Pourquoi je l'ai pas là ? Putain, on a touché à des trucs sur la table de mixage. Pourquoi ça ne marche pas ? Normalement, je devrais être sur le Rodecaster. Pourquoi je n'ai pas le... Pourquoi ça ne marche pas? Gna 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 gna. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Il va falloir que je retravaille là-dessus. J'arrive plus à avoir le son de l'iPad comme je l'avais autrefois. Normalement, ça devait être sur la Rodecaster. Pourquoi je ne l'ai pas ? Oh, c'est pas grave. On va pas passer la matinée là-dessus. Ce que Lou nous montre dans cette vidéo, c'est effectivement lui, il l'a eu en main. Ouais, le décor d'Unbox Therapy, c'est débattable. On voit que t'as un grand studio et plein de mètres carrés, c'est bon, frimeur. Non, le son est pas coupé, mais il faut que je refasse des réglages qu'on n'a plus depuis un certain temps. C'est pas grave. Je vais mettre un peu plus fort, vous entendrez un petit peu dans le micro. En fait, ce qu'il montre, et c'est ça qui est intéressant avec le Rabbit R1, c'est que, en tout cas, par rapport à l'AI PIN de Human, ça a l'air de marcher mieux. Ça a l'air de marcher mieux pour ce que ça fait. En fait, c'est un produit plus modeste, mais qui du coup marche. Déjà plus modeste en prix, hein, ça vaut $200, il n'y a pas d'abonnement. Et le fait de, en appuyant sur un bouton, on peut poser des questions à une IA générative conversationnelle, ça marche. Donc, on peut lui montrer des objets, on peut lui poser des questions contextuelles comme une intelligence artificielle générative et ça marche. L'objet a l'air assez cool et il le dit. C'est un objet joli, en plastique, mais joli, bien designé, qui ressemble pas à un smartphone, qui... Alors, en fait, tout le débat va être là. Et c'est un peu le débat qu'on a autour de ces produits-là. Ils sont... Est-ce qu'ils sont vraiment censés remplacer des smartphones ? Parce que tout ce que ça fait, moi, je peux le faire avec mon iPhone aujourd'hui. Tout ce qu'ils montrent, en tout cas dans la vidéo, mon iPhone le fait. Avec Copilot, je parle même pas de Siri. Hein. Je parle de Copilot de Microsoft. Copilot, je peux lui montrer des choses, lui dire qu'est-ce que je suis en train de regarder, il peut me décrire. Je vais vous faire une démo en direct. Hein. Parce que là, c'est ce qu'il fait, vous voyez, il montre à son Rabbit terrain le chien et il dit qu'est-ce que je regarde et le Rabbit terrain lui raconte ce qu'il regarde. Bon, on va faire la même chose, j'ai pas de chien ici, mais j'ouvre Copilot sur mon bouton action de mon iPhone. Et je lui montre, par exemple, la table de mixage. Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Alors, ça prend un certain temps. C'est un peu le problème aujourd'hui.
Vous regardez un équipement audio. Plus précisément, il s'agit d'une console de mixage ou d'une interface audio. Voici une description détaillée de l'image. Appareil audio. Il s'agit d'une console de mixage ou d'une interface audio.
Il m'a donné une réponse plus complète la dernière fois. Attendez.
Sur la surface supérieure de l'appareil, vous pouvez voir divers boutons et curseurs. L'appareil est étiqueté Rodecaster Pro, indiquant la marque et le modèle. Plusieurs câbles sont connectés à l'arrière de l'appareil, suggérant qu'il est en cours d'utilisation. La console est posée sur une surface de bureau en bois à côté d'autres appareils électroniques, peut-être des ordinateurs ou d'autres équipements audio. On aperçoit un ordinateur portable noir partiellement visible sur le côté droit de l'image.
Bon, je vais arrêter là parce que... Heureusement, elle n'a pas vu mon sextoy qui était posé juste à côté. Mais voyez... votre câble management est discutable. En outre, votre iPad n'est pas branché. Il y a de ça. Ça marche très bien avec Copilot. Moi, je l'ai utilisé. C'était un exemple que Yanis m'avait donné. Ça marche très bien. Vous êtes dans le supermarché, vous voulez choisir une bouteille de vin. Vous n'êtes absolument pas œnologue. Vous lui montrez trois bouteilles de vin, vous lui dites qu'est-ce qui irait le mieux avec des sushis. Et bah, il vous dit, bah, prends pas du vin, prends du saké, connard. C'est très efficace. Donc, en fait, c'est un peu le fond du problème de ce produit, la Rabbit Air One. C'est que ce qui fait ça marche, et ça, déjà, c'est mieux que l'AI-PIN de Human. Mais en vrai, pour l'instant, il fait la même chose qu'un smartphone. Ce qui est vachement utile. Hein. Et en fait, très peu de gens, pour l'instant, utilisent leur smartphone pour faire ça. Parce qu'ils ne savent pas que leur smartphone peut faire ça. Donc, ça peut être... Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. Là où Rabbit Air 1, ils sont peut-être plus malins qu'Human. C'est que, en fait, ce que les spécialistes de la tech, dont moi, ont dit dès qu'on a vu ces produits, on a dit, mais en fait, ce qu'ils montrent, c'est une fonctionnalité, c'est une app. Ça pourrait très bien être une app Human ou une app Rabbit qu'on installe sur son smartphone. Ça serait bien mieux. Mais là où c'est malin de faire un objet, là où c'est malin de sortir un objet physique, c'est que tu crées une hype. Et Rabbit, je pense que là où ils sont plus malins que Human, avec un prix d'accès plus abordable, c'est qu'ils sont en train de créer une hype autour du nom Rabbit. Ils ont déjà l'icône de l'app. Et demain, ils peuvent débarquer avec... Soit vous achetez parce que vous trouvez l'objet sympa à 200$, notre Rabbit Air One. Sinon, vous avez l'appli Rabbit qui va venir concurrencer un Copilot, un Siri ou quoi que ce soit que vous pouvez installer sur votre smartphone. Vous voyez où je veux en venir ? Là où Human a pris un parti pris, à mon avis, trop fort, genre « vous n'aurez plus besoin de votre smartphone » et où la réponse des tests, c'est « ah ben si, on en a encore besoin parce que ça ne marche pas du tout bien votre truc », Rabbit a une approche plus modeste, offre une alternative à l'iPhone. Parce qu'honnêtement, je pense que des gens qui veulent moins utiliser leur iPhone... Dans un an, le Rabbit sera peut-être quelque chose d'envisageable en alternative d'un smartphone un peu moins addictif et qui aura finalement l'essentiel, parce que je vous le pronostique, dans un ou deux ans, l'essentiel, ça sera d'avoir une IA conversationnelle générative performante sur son iPhone. Donc, je trouve que les mecs de Rabbit sont plus malins que ceux d'Human. Après, on en a parlé hier, il commence déjà à y avoir des rumeurs qui trichotent un petit peu, peut-être, sur cette première version, on n'est pas sûr. Donc, on va voir, à fur et à mesure des jours, est-ce qu'il y a un bad buzz autour du Rabbit Air One. Les premiers tests, là, Louis dit, il marche. Et il marche, ça marche mieux, en tout cas, que l'AI-PIN de Human, clairement. Donc, je trouve quand même c'est intéressant ce qui se passe. Et finalement, le fait qu'on utilise notre smartphone ou qu'on utilise un objet indépendant, en vrai, ça va être la même chose et ça sera le choix de chacun, en fait. Moi, par exemple, c'est pas le Rabbit Air One qui m'intéresse. C'est pas non plus l'AI-PIN qui m'intéresse. Je vais couper un peu le son de loup parce que... ça parasite mon micro. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir tout ça là. Moi, c'est là que je le veux, le Rabbit Air One. Voilà, parce que ça, c'est l'objet qui me libère de mon iPhone et que j'ai toujours sur moi et qui est plus accessible que mon iPhone. Donc, c'est là où j'aimerais avoir Copilot, en fait. Et la fonction visualisation, soit effectivement, j'ai une petite caméra ici qui me permet de montrer des choses à mon Copilot ou à mon Siri évolué ou ce genre de trucs. Les gens qui sont en audio, oui, je suis en train de parler de ma smartwatch. Je veux que l'objectif, s'il y a une caméra, je veux qu'elle soit là et pas sur l'écran. Parce que ça, je veux pas montrer des choses comme ça. Tu fais une torsion du bras, c'est horrible. Là, l'avantage, c'est que je peux cadrer avec mon écran. Si l'objectif, il est dans mon bracelet ou à l'endroit de la boucle, je peux dire, je peux montrer trois bouteilles de vin et lui dire laquelle je dois choisir pour manger des sushis. Quel vin irait le mieux avec les sushis? C'est ça que je veux sur ma montre. L'avantage en plus de la montre par rapport, pour moi en tout cas, à des lunettes qui auraient des caméras, c'est que la montre, une fois que je la baisse, je n'ai pas une caméra pointée sur les gens en fait. Le problème des lunettes, moi aussi j'aimerais bien avoir des lunettes quand même qui me puissent aussi me permettre de faire ça, mais il y a toujours un gros problème avec les lunettes. C'est qu'à partir du moment où tu as un objectif sur la lunette, je trouve ça très intrusif. Et pour l'avoir vécu, quelqu'un qui me regarde avec des lunettes où il y a une caméra, c'est pas génial comme sensation. Sinon, derrière ton bras, il y a le monsieur qui tient la boutique, qui peut te conseiller. Qui tient la boutique. Baisse ton bras. Alors, imagine, je suis chez un marchand de vin. Il y a 20 personnes devant moi pour avoir le conseil. Je fais comment, Oleg? J'attends. T'as des yeux aussi. Non, mais j'avais pas compris. Oui, effectivement, je pourrais dicter à mon IA conversationnelle. Voilà les trois bouteilles de vin que j'ai devant moi. Je te donne les marques, je le décris, mais plus rapide de lui montrer. On ne sait plus attendre. Est-ce qu'on va arriver dans le débat de « on va terminer comme dans Wall-E, nous serons des gros blobs dans des fauteuils parce qu'on est de plus en plus flemmards » Est-ce que je vais devoir reparler des hommes préhistoriques? Est-ce que je vais devoir reparler de l'agriculture? C'est ça que vous voulez? En fait, Il y a un truc, j'ai trouvé une phrase pas mal dans l'émission de l'âme. Depuis que l'humanité existe, on invente des outils pour nous faire gagner du temps. Le problème est-il les outils ou est-ce qu'on ne sait pas comment dépenser ce temps ou on dépense mal ce temps gagné? Cette imagerie populaire du blob de Wall-E, où les humains sont tellement assistés qu'ils ne font plus rien, c'est un problème strictement humain. Ça ne vient pas des outils qui sont performants et qui nous font gagner du temps. Ça serait une humanité qui décide d'utiliser ce temps à rien foutre. Donc voilà, c'est toujours le même problème. C'est pas l'outil qui nous transforme en blob. C'est nous qui transformons notre temps à rien foutre. Mais, je vais pas remonter jusqu'au feu, mais quand on a inventé le tracteur, il y a plein de paysans qui ont dit, ah, ça va faire des générations de paysans flemmards. Nous, au moins, voilà. Il fallait le cheval de trait, la bonne charrue. Voilà, en cultiver son champ, ça se mérite. Et t'avais le grand-père ou l'arrière-grand-père qui disait « Oui, bah moi, à mon époque, on n'avait même pas inventé le harnais. À la binette, hein, on cultivait son champ. Génération de flemmards. » C'est toujours la même chose. Allez, le feu Eh, hey, Olek, je t'as pas écouté l'émission de l'âme, mais j'ai réussi à sortir le feu dans l'émission de l'âme. Hein. Bah, toujours les mêmes arguments. C'est parce que c'est ce que je crois. L'homme ne peut pas s'empêcher, l'être humain ne peut pas s'empêcher d'inventer des outils de plus en plus pratiques pour lui faire gagner du temps et du confort. C'est une dynamique qui fait partie de l'humanité. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas bâillonner tous les mecs qui sont au concours Lépine ? Tu vas empêcher tous les ingénieurs de travailler sur des solutions plus pratiques, sur des trucs mieux ? Est-ce que le problème, c'est les outils qu'on invente ou plutôt ce qu'on en fait ? C'est là où il faut remettre l'église au milieu du village. Donc, moi, il y a plein d'outils qui m'ont fait gagner du temps. J'essaye parce que je comprends très bien la logique. En fait, on est toujours dans cette spirale, on veut gagner du temps et on a l'impression d'avoir de moins en moins de temps pour faire les choses. Mais ça, c'est psychologique. Il faut être rationnel sur ces gains de temps. J'ai gagné du temps, qu'est-ce que j'en fais du temps gagné ? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'églises au milieu des villages ? Oui, la France, terre de clochers. Donc, moi, je dis, c'est intéressant, le Rabbit Wire One, mais je ne suis pas persuadé, contrairement aux critiques de ces produits, que le but in fine, c'est de faire uniquement un objet. Je pense que le côté habile de Rabbit, c'est en faisant un objet, ils attirent la hype, ils savent que des vidéos de test ont été faites dessus, et petit à petit, ils sont en train de faire passer un message concret, c'est qu'un objet, en appuyant sur un bouton, peut être un assistant personnel, vachement utile, qui va t'éviter de cliquer sur 5 apps différentes pour obtenir le même résultat. Parce que je sais, hein, certains vont me dire, oui, mais pour tes bouteilles de vin, t'as qu'à utiliser Google Lens, tu prends une photo, t'ouvres Google Lens, tu montres la photo de ce que t'es en train de montrer, tu l'entoures ou je sais pas quoi, ça va te donner une réponse qu'il faut lire. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est un assistant à qui je puisse parler, ou, quand je dis parler, c'est pas forcément vocal, hein, je peux aussi lui parler avec des gestes ou en tapant sur un petit clavier, s'il y a trop de monde autour et que je suis gêné de lui parler. Souvent, les gens somnubiles, c'est par ce truc, on ne va pas jamais parler à des objets. Bon, ça dépend des situations, en fait. Voilà, on veut Jarvis dans notre poche. Et s'ils avaient sorti uniquement une app pour le faire, personne ne s'intéresserait à eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Un appareil de plus à trimballer, à charger, je ne suis pas persuadé de ça. Regarde, moi, j'ai déjà une Apple Watch. Ça me fait déjà un objet de plus à recharger. Je le fais avec plaisir. C'est pour ça que je dis, moi, mon Rabbit Air 1, je le veux là-dedans. Je ne veux pas acheter un troisième objet. Ben, il le montre hein, dans la vidéo qu'il y a un petit clavier aussi, si vous voulez prompter par écrit, en fait, votre Rabbit Air 1. Parce que bah, y a trop de monde autour de vous et vous hésitez à parler, machin. Moi, je sais que depuis que j'ai Copilot, je me retrouve à lui parler alors qu'autrefois, j'aurais jamais osé le faire avec Siri. Et je me demande si j'avais pas trop peur de la réponse honteuse de Siri que les gens entendraient. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, moi, maintenant, dans le métro, je le fais discrètement, mais plutôt que de saisir un prompt compliqué à Copilot, je lui dis bah, quel trajet plus court pour aller à tel endroit ou voilà, je lui demande des trucs, je lui parle discrètement comme ça, quoi. Je me mets de plus en plus à la commande vocale. Comme en plus, souvent, j'ai mes AirPods dans les oreilles, c'est encore plus discret, mais... T'imagines tous les gens sur les plateformes. Franchement, alors, soyons honnêtes, Olivier. T'as pas déjà plein de gens qui parlent comme ça à leur iPhone autour de toi, dans la rue? Alors, je dis pas dans le train, oui, c'est un endroit où il faut respecter le silence, mais dans le métro, de toute façon, le métro, il fait du bruit. Moi, je vois plein de gens parler, j'entends leur conversation, hein, ils écoutent comme ça. T'as déjà plein de gens qui parlent. Hein. Donc, en fait, vous êtes absolutiste. Vous imaginez que tout le monde va le faire en même temps. Ah non, mais Copilot, je sais qu'autour de moi, quand je fais la démo de mon utilisation de Copilot, j'ai encore un pote qui m'a dit, mais c'est dingue. J'ai pas ouvert Google depuis que tu me l'as présenté, quoi. Ils ne savent pas parler à leur téléphone, il faut le mettre de travers. Moi, je comprends. Non, t'as pas compris pourquoi les gens font ça. Parce qu'en fait, ils laissent des messages vocaux. Ils sont pas en train de parler en simultané avec une personne. Dans le métro, ils sont en train de laisser des vocaux et d'écouter des vocaux. Et c'est beaucoup plus pratique de le faire comme ça que de le faire comme ça. J'aime pas les vocaux, mais en fait, les vocaux deviennent de moins en moins un problème parce que, alors, pour l'instant, WhatsApp ne le fait pas, mais ça va pas tarder, à mon avis. Mais par exemple, sur message, quand je reçois des vocaux, il me les retranscrit. Moi, effectivement, je suis d'une génération, j'aime pas beaucoup les vocaux. Je suis pas fan, pour moi, c'est une perte de temps. Mais depuis que iMessage me les retranscrit en texte, ça me dérange beaucoup moins les vocaux. C'est des questions de génération, hein, les vocaux. Mais tu vois, moi, j'ai ma sœur aînée, elle est plus âgée que moi. Elle, c'est que les vocaux. Hein. Elle en voit que des vocaux. Ben, en fait, les vocaux, c'est horrible pour celui qui les reçoit. C'est ça où moi, j'étais vent debout contre les vocaux, surtout au sein de mon équipe. J'aurais dit, ne m'envoyez pas des vocaux, je ne vais pas les écouter. Hein. Je n'ai pas le temps. Vous, ça vous fait gagner du temps, mais moi, ça m'en fait perdre. Donc, c'est hors de question. Là, j'ai fait mon patron dictatorial. Aujourd'hui, je serais moins jusqu'au boutiste parce que je sais que je peux les retranscrire, les vocaux, en texte. Et pour la défense des vocaux, ce que j'aime bien dans les vocaux, notamment avec des amis, c'est qu'avec les vocaux, on peut refaire de l'ironie dans l'humour. Le problème du langage écrit, c'est qu'il n'y a pas de place pour l'ironie, il n'y a pas de place pour le second degré. C'est très mal interprété dans les messages textes. Donc moi, j'ai tout un pan culturel de mon humour qui s'effondre à l'écrit. Les jeux de mots, je peux les faire en vocaux. Les jeux de mots, ça passe à l'écrit, mais certains, pas tous. Il y a le jeu de mots qui marche que à l'oral, tu peux le faire qu'en vocal. Mais pour être plus sérieux, tu as des subtilités du langage parlé, des intonations que tu peux faire passer en vocal, que tu ne peux pas faire passer dans le langage écrit. Et honnêtement, alors avec Marion, nous, on n'est pas très vocaux. On ne s'envoie pas des vocaux. Je pense que je conseillerais à des couples qui ont eu des problèmes avec des messages écrits de mauvaise interprétation et de mauvaise humeur, avec genre, t'as vu la froideur avec laquelle tu m'écris ? Mais non, ce n'est pas ça que je voulais. Le problème, c'est que le langage écrit, il n'y a pas d'intonation. Faites un mélange d'écrits et de vocaux, quoi. Alors, les smileys et tout, je suis d'accord. Après, il y a aussi un autre problème générationnel. C'est que chaque génération a des manières différentes d'interpréter les émoticônes. Bon, il y a le truc voilà, célèbre de aujourd'hui, un Gen Z, le petit bonhomme qui pleure, c'est plutôt quelqu'un qui rigole. C'est-à-dire qu'ils ont un peu fait le verlan des émojis. C'est que maintenant, il y a des icônes. Maintenant, c'est même la tête de mort pour dire « je suis mort de rire ». T'envoies une tête de mort à un Gen X comme moi, je vais mal le prendre. Mais c'est normal. Chaque génération réinvente le langage pour qu'il devienne cryptique par rapport aux générations d'avant. Ça a toujours existé. Le verlan, c'est comme ça qu'il est né. C'est pour être un langage que les plus vieux ne comprennent pas. Ouais, il est 9h50, j'ai vu, mais c'est intéressant. C'est pareil, il y a toute cette histoire autour du dot, 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 les trois petits points. Les trois petits points. Moi, ma génération, on utilise énormément les trois petits points. Et c'est très mal perçu par les générations plus jeunes. Parce que pour eux, trois petits points, c'est de la dissimulation d'intention, c'est du passif agressif. Pour eux, les trois petits points, et je comprends comment ils en sont arrivés là, pour eux, les trois petits points, c'est « j'ai quelque chose à te dire, mais je ne te le dis pas en face ». Genre, je laisse en suspens, c'est des points de suspension. Donc, eux, ils estiment que c'est passif agressif. Ce que ma génération rétorquerait à des générations plus jeunes, genre les Gen Z, la génération X n'est pas passive-agressive. Elle est juste agressive. En vrai, c'est pas une... Ma génération pratique beaucoup moins le passif-agressif que d'autres. Généralement, quand on a quelque chose à te dire, on le dit. Parce que nous, c'est comme ça qu'on a été élevés. On se disait quand même les trucs, quitte à se mettre des bonnes mandales dans la gueule. Mais voilà, on n'est pas trop sur des modes de communication cryptiques. Et donc, nous, les trois petits points, c'est plutôt je laisse la phrase en suspens de manière positive. Ben, passif-agressif, ça veut dire que t'es agressif, mais tu le dissimules. Pareil, et ça, c'est relativement récent, mais les générations plus anciennes, on va dire millennial, Gen X et boomer, nous, voilà, le thumbs up, c'est hyper positif. Pour les plus jeunes, eux, le thumbs up, dans certains cas, ça correspond à un doigt d'honneur. Parce qu'ils trouvent qu'il y a un côté un peu passif. Et je comprends. Il y a un côté un peu passif. Allez, vas-y. Allez. C'est un peu pushy pour eux, le point, le thumbs up. Mais justement, ceux qui disent « je ne comprends pas », c'est exactement ça. Il y a des fossés de langage et d'interprétation. Et ça a été pareil pour nos générations quand on était jeunes. Regardez les mots négatifs qui sont utilisés positivement. Ça change de génération en génération. Un truc claqué, ça pouvait être positif dans ma génération. C'est plus un truc positif aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire... Moi qui étais vraiment contre les vocaux et très « vous faites chier avec vos vocaux, les Gen Z et les Alpha », je revois ma copie. Les vocaux dans certaines situations où tu as des choses délicates à dire, où tu as besoin des nuances de la vocalité, sont intéressants. Je fais attention, parce que moi, je travaille avec des gens très jeunes. Je fais attention maintenant, mes trois petits points, mes trucs. Ça ne veut pas dire que je ne les utilise plus, mais j'essaye de me mettre à leur place Je ne suis pas non plus genre, je veux pas les offenser, oh là là, les pauvres chéris et tout. Mais juste, moi aussi, quand mes parents et mes grands-parents me parlaient, parfois j'étais là, putain. Voilà quoi. La règle numéro un de la politesse en communication, c'est de se mettre à la portée de son interlocuteur. Et non pas le prendre de haut en lui imposant ton langage. C'est ce que je crois. Certains vont me dire, t'es trop woke, mais c'est pas grave. Ben, j'ai mis du temps à comprendre en quoi les trois petits points pouvaient être agressifs, mais ça y est, j'ai compris. Enfin, passif-agressif. Je comprends qu'une génération, pour eux, les trois petits points, c'est de la dissimulation. Parce qu'ils ont reçu des messages de leurs parents, des SMS, c'est « Ah, t'es pas encore rentré, trois petits points ?» Tu vois ? Là, ça devient passif-agressif, les trois petits points. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé des gènes Z et des gènes A, de la gène alpha. Les plus jeunes aujourd'hui, c'est gènes Z, mais les gènes Z sont déjà en train de vieillir. C'est les alpha maintenant qui poussent. Après, je ne suis pas en train de dire aux parents ça. Je suis plutôt en train de parler en termes de management. Quand vous travaillez avec des gens très jeunes, beaucoup plus jeunes, je ne vous dis pas que moi, je vais faire... j'arrive pas au bureau avec une casquette de travers en faisant « Wesh Wesh, mon ref !» Non, c'est ridicule. Mais j'essaye aussi de comprendre comment eux perçoivent les choses. Wesh, les Jones, ça gaze. Alors là, t'es mort. Déjà, t'es mort. Alors les Jones, ça gaze. Ça boum. Mais, et vous le voyez bien dans mes vidéos, dans mes lives, comme je travaille avec des gens très jeunes, j'ai adopté certains tics de langage qui ne sont pas de ma génération. En vrai, c'était pas quelque chose que je disais quand j'avais 20 ans, le démarrer le « en vrai ». Moi, c'était plutôt « sans déconner ». Donc voilà, le langage évolue. Une dinguerie, c'était pas un terme qu'on utilisait dans ma génération quand j'avais 20 ans. C'est bien ou bien ? Et c'est comment ? Tu vois pas un problème dans le terme gène alpha ? Oui, bah alpha est utilisé, oui, gène A, ils trouveront leur nom. Tu vois, par exemple, millennial, c'est la gène Y. On les appelle plus millennials que gène Y. Wesh, le sang de la veine. Mais franchement... Les gens qui disent « Ah, les jeunes, ils parlent n'importe comment. » Mais vos parents disaient la même chose de votre manière de parler quand vous aviez 20 ans ou 15. Je veux dire, le Kwakubé, nous, on avait des Kwakubé aussi. On avait des trucs complètement débiles. Je reviens à la vieille rêve du Kwakubé d'il y a un an. Nous aussi, on avait des vieux... Juste pour pas que les adultes nous comprennent. Donc, non, ils sont absolument pas plus débiles qu'on était débiles. Et le verlan, c'est juste que le verlan évolue, on met plus le verlan sur les mêmes mots. Mais moi, quand j'avais 15-20 ans, on parlait verlan aussi. C'était juste pas les mêmes mots de verlan. Le verlan, de toute façon, ça date. Hein. Je crois que c'est des années 20 hein, que ça a été inventé, le verlan. Bon, il est 10 heures pile poil, même si c'est des dossiers, le niveau scolaire a chuté. Mais nous, ça, désolé, hein, mais moi, ma génération, quand j'étais à l'école, on me disait que c'était la pire génération qu'il y a jamais eu à l'école. On était nuls, on savait plus lire, on lisait, on regardait trop la télé. Je suis désolé, je ne crois pas une seule seconde à ces histoires de niveau qui chute. Le niveau change, le monde change aussi, il n'y a pas besoin des mêmes connaissances scolaires. Mais sérieux, on vous disait pas, vous, à l'école, que de toute façon, on était une génération de bonne à rien, qui allait jamais trouver du boulot et qui savait même plus lire. Moi, on me l'a dit. Hein. C'est le syndrome du prof qui dit toujours « Vous êtes la pire classe que j'ai jamais eue ». Moi, ma génération, on disait « Vous êtes foutus, vous regardez beaucoup trop la télé ». C'est pour ça que quand j'entends des gens dire oh, « Ils sont tous sur leur smartphone », moi, ma génération, on disait « Ils sont tous sur leur télé ». Et franchement, la télé, c'était très con hein, quand même hein, pour la majorité. Hein. Franchement, les jeunes, ils savent faire des trucs que moi, je savais pas faire hein, aussi. Hein. Donc, je suis pas sûr que le niveau chute. Hein. Bon, sur ce, Télé 7 Twitch. Non, mais je vais pas vous le ressortir à chaque fois, mais il y a des textes de la Rome antique avec des gens d'un certain âge qui se plaignent que les jeunes romains ne connaissent plus et ne respectent plus rien. C'est vieux comme les vieux et c'est jeune comme les jeunes. C'est toujours existé. C'est toujours la même chose. Je vous fais des gros bisous. Hein, en vous laissant bien avec ces bonnes polémiques. Et du coup, l'Empire romain s'est effondré. Ouais, moi, il y avait des trucs très cons qu'on nous apprenait à l'époque. Franchement, le niveau chute. Alors là, j'y crois pas une seconde. Hein. Désolé, hein, les gars. Toutes ces théories que le niveau chute. Je vous fais donc des gros bisous. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Dimanche, donc une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Je vous la spoil. Ça va être... Merde, j'ai plus le titre en tête, mais ça va être genre comment organiser des vacances de dingo avec votre iPad. Mais même si vous n'avez pas un iPad, je ne parle pas que d'iPad. Voilà, spoiler. Mais iPad, c'est parce que les gens cliquent plus quand c'est Apple. Voilà, je suis obligé de vous décrypter les titres YouTube qu'on fait quand même. Vous organisez mal vos vacances. On est moins dans ça, ça marche un peu moins bien le côté titiller sur le négatif. Pas de Manor Lord prévu. Non, je ne vais pas pouvoir jouer ce week-end. Non, les 5 astuces, c'est un peu vieux. C'est old school, hein, Olek. Hein. De temps en temps, c'est pertinent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, de dire 5 astuces, ça veut dire que la vidéo est courte. Donc ça peut être bon. Le problème, c'est que la plupart de mes vidéos, ça va être 45 astuces pour organiser vos vacances. Et là, ça fait fuir tout le monde. Les vacances entre le R et le O de vos vacances. Ah, très bon la ref, très bon Olek. Très bon, très bon. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Ben, rendez-vous mardi avec Marion pour le mug. Je pense vraiment pas pouvoir jouer ce week-end. J'ai un milliard de choses à faire. Je pars mine de rien au Japon dans pas si longtemps que ça, même si c'est pas tout de suite, tout de suite. Ouais, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On va faire un raid. Mais j'ai besoin qu'à 17h dimanche, vous cliquiez bien sur la vidéo. Je ne suis pas sûr qu'elle va marcher, cette vidéo. Donc, j'ai besoin que vous la poussiez un petit peu, là. Un petit, même si vous ne la regardez pas, vous faites comme si vous la regardiez, là. Tout le monde, 17h, mettez vos réveils. Bim, une petite impulsion, là, pour dire à l'algorithme. Hé, YouTube, regardez, Naotech, ils ont sorti une vidéo. On compte sur vous. Merci. Pourquoi le module de RAID ne fonctionne pas ? Ça y est. On va faire un petit RAID chez Flonflon ou Bastille. Bastille, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Attendez, je regarde qui il y a. Samuel Etienne, il est encore en train de jouer à Valorant, je suis sûr. Ah non ! Non, il refait sa revue de presse. Allez, chez Flonflon. Let's go chez Flonflon. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve mardi pour le mug de Marion. Ciao tout le monde !